êtes toujours avec nous sur Bac FM 106.1. Vous êtes à l'écoute de C'est dans les parages, l'émission où je reçois tous les jours actrices et acteurs qui font l'actualité dans notre beau département nivernais. Quand je parle de Nevers, peut-être pensez-vous à ses guéguerres politiques pour les plus taquins, à sa gastronomie pour les plus gourmands, ou pour les gens de bon goût, à nos champions de Lussonne. Club de rugby devenu quasi culte ici, il n'est pas sans risque pour la tête de ses gladiateurs au ballon ovale. Lussonne, en partenariat avec d'autres structures, organise une journée le samedi 21 mars dédiée à la protection des cerveaux des sportifs pour sensibiliser à cette cause. Bonjour David Florence.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la performance chez Lussonne. Bonjour Didier Bonner.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'association. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer cette matinée cerveau protégé, c'est quoi exactement, pourquoi Lussonne a voulu l'organiser?
Alors, tout simplement, au mois de décembre, j'ai été invité par l'UFR SAPS de Créteil sur une soirée qui traitait des commotions, suite à la sortie du documentaire pour l'équipe réalisé par Lucie sur coup pour coup, les ravages dans le rugby amateur. Et donc, j'étais convié en tant que personne comme ça, lambda. Et on a pas mal échangé avec l'université, avec la réalisatrice. Et ce que les gens verront ou ont peut-être vu sur le documentaire qui a déjà été diffusé sur l'équipe, c'est que c'est un sujet qui est assez problématique. Soit parce qu'il y a des négligences dans la prise en charge, soit il y a des négligences où il y a un refus d'accepter en disant non, mais c'est rien, j'ai pris un coup à la tête, mais c'est pas grave. Et du coup, ce qui était présenté, je trouvais que c'était un petit peu... Alors c'est inquiétant et alarmant, mais c'était assez négatif et noir. Et moi j'ai voulu souligner nous, ce que nous on faisait, Didier peut en témoigner, mais nous systématiquement, dès qu'un joueur prend un coup à la tête, il y a une surveillance, on déclare la commotion, et tant pis si c'est la deuxième, tant pis si ça engendre plusieurs semaines d'arrêt, voire c'est parfois 6 mois d'arrêt. Mais ce qui est important, c'est de prendre ça en charge, de rassurer les familles, de rassurer les joueurs aussi, parce que c'est... pas quelque chose de grave, ça le devient si on l'ignore et si on n'en prend pas conscience. Mais si c'est bien soigné, il n'y a aucun problème avec ça. C'est comme une entorse, vous ne la soignez pas, et elle va se répéter, elle va se répéter, elle va se répéter, et après vous allez avoir de l'arthrose, des problèmes plus importants. Donc c'était cette idée. Moi j'ai voulu, plutôt que de dire les ravages, oui d'accord, mais cerveau protégé, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger en amont, pendant et après une commotion?
Aujourd'hui, on sait que la prévention et l'information sont essentielles. Les commotions cérébrales, comme disait David, sont encore mal connues, sous-estimées dans le sport en général. Il n'y a pas que le rugby d'ailleurs, même si c'est vraiment le sport de contact, et notamment chez les jeunes. Donc l'objectif de cette conférence, c'est donc de sensibiliser et informer, que ce soit les joueurs, joueuses, les parents, les éducateurs, entraîneurs, et particulièrement tous les acteurs du club, des clubs nivernais et même limitrophes, réagir et protéger la santé des sportifs. Voilà, c'est vraiment la démarche globale de protection des joueurs.
Ma deuxième question, c'est plus une question d'opinion. Je voulais vous demander, est-ce que ce sujet des commotions cérébrales, qui est important et problématique, comme vous venez de le souligner, est assez central aujourd'hui dans le rugby? Est-ce qu'on en parle assez?
Alors certains diront qu'on en parle trop, que c'est quelque chose qui est là et que de toute façon ça sera compliqué de faire qu'il n'y en ait plus, parce qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de contact, donc de par la nature c'est impossible. Si je fais un parallèle, oui, il y a des sports comme la boxe, c'est obligé qu'il y en ait, puisqu'en plus c'est la boxe, c'est ce qu'ils vont rechercher, ils vont chercher la commotion, sauf qu'eux ils ont moins de compétition et donc c'est aussi contrôlé. Mais pour autant il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir tout ça, et oui c'est résiduel, ça existe, mais il faut savoir le gérer au quotidien.
Oui, je crois que dans la démarche globale de protection des joueurs, il faut absolument dédramatiser un petit peu tout ça. Ça sert à rien de cacher les problématiques, au contraire. Donc c'est améliorer la détection des commotions, c'est promouvoir les bons réflexes. Je crois que ça c'est très important. Je pense que même au niveau médecin, certains doivent être un petit peu gênés. Comment aborder un jeune qui arrive dans son cabinet pour voir comment régler cette problématique? Rappeler rappelait, et David l'a fait tout à l'heure, l'importance du repos, hein, du protocole de reprise du rugby. C'est très encadré, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, on peut tomber sur des joueurs qui cachent un petit peu cette commotion. Voilà, un point important, donc je répète, c'est l'information des parents et des encadrants. Le message est très simple, hein, c'est la santé passe avant la performance.
Vous venez de parler des parents et des encadrants, c'est à eux que s'adresse cette journée? Est-ce que c'est aux jeunes, aux éducateurs peut-être?
Alors ça, je vais répondre à cette question. Ça s'adresse à tout le monde, aussi bien dans le rugby que hors rugby, parce qu'on est tous amenés éventuellement à glisser, à se cogner la tête, et donc connaître les symptômes, et les parents, les joueurs, les staffs, les arbitres, les médecins aussi, parce qu'il y a des médecins qui des fois disent ben, « je ne sais pas trop comment gérer ça ». Après, il faut remplir un document sur la reprise pour valider qu'il est opérationnel, mais certains disent ben « non, je préfère que ce soit le médecin du club parce que je ne me sens pas forcément assez capable de le faire ». Voilà des petites choses dans les préconisations de la Fédération française de rugby. Et de voir le rugby, il est conseillé de ne pas faire de prescription de médicaments type Doliprane qui pourraient masquer des symptômes. Et il arrive assez fréquemment que des joueurs vont voir leur médecin traitant et eh ben, il m'a donné du Doliprane. Ben non, parce que du coup, on ne saura pas où est-ce que tu en es dans ta rééducation, parce que la disparition des symptômes fait partie justement de l'avancée du protocole de reprise. Et du coup, si on prend des molécules qui diminuent les symptômes, ben en fait, on ne sait pas s'il a naturellement récupéré ou est-ce que c'est l'effet du médicament. Donc voilà, il y a toute une sensibilisation. Donc on aura des intervenants de la Fédération française de rugby, dont le docteur Capel, qui est le responsable de la commission médicale de la Fédération française. Et là, il m'a envoyé un mail ce matin pour me dire qu'il y aurait un... Alors, j'ai plus le nom en tête, mais un neurochirurgien et un spécialiste des commotions dans le rugby qui sera présent. Alors, il ne sera pas forcément présent sur place, mais il sera en visio, justement, pour faire un petit point au niveau médical et puis sur les avancées scientifiques par rapport à ça.
Tous nos auditeurs et auditrices ne sont peut-être pas forcément médecins, ils ne sont peut-être pas au fait de ce qu'est une commotion. Alors, question peut-être un peu Doctolib, mais c'est quoi une commotion et comment on fait pour repérer peut-être les signaux d'alerte?
Alors, une commotion... Alors, c'est là où c'est un petit peu complexe, où il faut être vigilant, c'est que vous tombez sur les fesses, vous n'avez pas pris un coup à la tête, mais du coup il y a des vibrations qui peuvent engendrer une commotion. Donc souvent les gens disent, bah, commotion c'est il a pris un coup à la tête et il a perdu connaissance. Non, ça ça représente très peu, c'est peut-être 5 à 10% des commotions. Donc la perte de connaissance n'est pas forcément liée à n'engendre pas forcément de commotion. Et à l'inverse, on peut très bien prendre un coup donc sans perte de connaissance et avoir une commotion. Donc ça c'est une problématique. Donc il y a deux choses à détecter, il y a les signes et les symptômes. Les signes c'est il y a eu un choc violent. OK. Il y a eu une chute, il y a eu un coup à la tête. Ok, ben, on peut avoir une suspicion de commotion. On l'a vu samedi sur le match France-Angleterre, il y a un joueur anglais qui saignait. Bon, ben, il y a eu un coup à la tête, mais le protégeant n'a peut-être pas vibré. Ok, ben, c'est pas forcément une commotion. Donc, il y a quand même des protocoles pour vérifier, mais ça, c'est à haut niveau. Nous, on n'a pas ces possibilités-là. Donc, la problématique, c'est toujours, oui, il a pris un coup à la tête, mais je ne sais pas s'il a fait une commotion. Il n'en a peut-être pas fait, mais qu'est-ce qu'on fait? On le laisse quand même sur le terrain en se disant, ben, il y a une chance sur deux pour qu'il ne l'ait pas fait, ou alors... on le laisse et s'il en a fait une, et on sait que la deuxième commotion est dangereuse parce que ça peut créer des hémorragies et il peut y avoir des décès ou des complications sur la deuxième commotion qui peut être engendrée. Donc les signes, il y en a plein, ça peut être comportement un peu bizarre, un joueur qui n'arrive pas à se replacer ou qui va se replacer avec l'adversaire, qui ne rappelle plus des systèmes de jeu... qui a mal à la tête.
Une petite confusion en fait.
Ouais, de la confusion. Certains ont envie de vomir, des maux de crâne. Donc, et puis après, il y a les syndromes qui apparaissent un petit peu le lendemain. C'est je suis fatigué, je me sens pas bien, la lumière me fait mal. Alors, la fatigue, c'est simplement un signal du cerveau qui a pris un choc, une agression. Et lui, le cerveau, il dit, bah, écoute, il faut tout stopper. Il faut que je me repose. Donc, j'ai besoin pendant 2 jours, 3 jours, j'ai besoin d'un repos complet, un repos social, un repos cognitif. Donc, peu de lumière, peu de bruit, pas d'écran, pas d'école, pas de travail. Même si on a le sentiment que ça va, non, il faut se reposer. Il faut se reposer. Il y a 48 heures, il faut se reposer. Voilà, si ça c'est fait... Mais tout se passe très bien, puis c'est 48 heures, mais des fois ça demande 72, des fois ça demande un peu plus de temps. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est juste, j'ai la connaissance des signes, je connais les symptômes, et je surveille tout ça, en relation avec ses éducateurs, ses parents, le staff médical, et on ne brusque pas les choses.
Comment on fait aujourd'hui dans un club comme Lucerne pour détecter une suspicion de commotion pendant ou après un match pour le coup?
Alors, il y a différents niveaux de responsabilisation. Il y a la responsabilité des coachs sur les entraînements et sur les matchs. Il y a la responsabilité de l'arbitre aussi, qui peut, lui, prendre la décision de dire « Non, ce jour-là, moi, je le mets en carton bleu parce que j'estime qu'il a pris un coup et commotion ou pas commotion, c'est l'arbitre qui décide. » Je donnerai une triste anecdote qui s'est produite récemment dans le judo où un garçon de 12 ans, sur une compétition, est décédé. Il y avait un médecin. Le médecin a dit ben, ce garçon, il ne faudrait pas qu'il reprenne les combats. Les entraîneurs ont dit non, mais c'est bon, c'est le métier qui rentre, hein, c'est comme ça, c'est le judo. L'arbitre a dit non, mais c'est bon, ça va. Et, sauf que le garçon, sur un hippon, il est décédé. Voilà, donc là, c'est assez compliqué dans le judo et je leur souhaite beaucoup de courage. Je sais que la fédération a essayé de sensibiliser les familles, les arbitres, les éducateurs pour remettre un cadre strict. Mais ça, c'est des choses importantes. Après, il y a la responsabilité des parents, les sensibiliser, surveiller les symptômes. Voilà, on a un doute, il a peut-être eu une commotion. Faites-nous des retours. Donc là-dessus, on a des bons échanges avec les parents. Moi, j'ai fait des sensibilisations auprès d'eux. Pour l'année prochaine, on va même mettre en place une information alors physique et puis éventuellement filmée sous forme de webinaire où ils pourront revoir ce qu'on a dit et un document comme quoi ils ont bien été informés des protocoles à respecter parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont un petit peu inquiets, paniqués. Alors ils passent par moi pour les rassurer, leur dire que c'est pas grave. À partir du moment où on respecte les protocoles, il n'y a aucune inquiétude. Et puis, il y a des étapes de reprise progressive. Et sur la partie... mais il y a aussi la responsabilité des joueurs, c'est-à-dire apprendre aux coéquipiers à dire ben, « Écoute, pendant le match, je pense qu'il a pris un coup, il avait l'air un peu bizarre. » Et là, nos joueurs, et je les félicite parce que c'est ce qu'ils font. Ils ont conscience de ça et disent tu devrais surveiller un tel ou un tel parce que pendant le match, on pense qu'il a pris un coup. » Parce que les éducateurs ne peuvent pas tout voir. Ils sont au bord du terrain. Si l'action elle est à 60 mètres, côté opposé, ben, un coup, on n'en a pas conscience. Donc, ce qui est important, c'est de responsabiliser les joueurs pour eux, mais aussi auprès de leurs partenaires.
Oui, moi, je voudrais insister sur la partie que David vient d'évoquer au niveau des parents. C'est clair que les éducateurs font ce qu'ils peuvent, ne sont pas toujours près de l'action, mais les parents jouent un rôle clé. D'ailleurs, bien sûr, ils sont invités samedi. On a communiqué au niveau de tous les parents, car ils sont souvent, c'est les premiers à observer certains symptômes après un match ou un entraînement. Alors, pour les observer aussi, il faut les connaître. D'où l'intérêt de cette information samedi. C'est grâce à cette conférence qu'on veut que tout le monde parle le même langage. Et surtout, c'est dans notre projet sportif, depuis un an et demi, deux saisons pratiquement. Là, on est en train de franchir une étape au niveau de notre pôle jeune, par rapport au médical, par rapport à la protection et l'information. Moi, je peux vous citer des exemples, en dehors de la commotion, hein, que David va voir un jeune un lundi, et après avoir vu tous ses résultats sur la fatigue, etc., peut lui dire mais cette semaine tu t'entraînes pas, et ça c'est très important, et on le voit dans la performance. Donc il y a la performance sportive athlétique, mais aussi le suivi médical. Moi je pense que c'est très très important, et encore une fois, que les parents soient proches du club.
Alors, pour revenir du coup sur cette matinée du 21 mars, puisque ça se déroulera sur tout le long de la matinée, elle commence par la projection d'un documentaire pour l'équipe que vous évoquiez tout à l'heure, coup sur coup. Pourquoi c'était important de passer par ce film, par ce documentaire?
C'est important pour montrer la réalité que les gens parfois ignorent ou ne veulent pas regarder. Donc ça, c'est une réalité. Elle est là. Alors on voit aussi qu'il y a dans ce documentaire qu'il y a le club de Vichy qui fait des choses intéressantes en termes de prévention, donc, et d'action, parce que donc il faut mettre en avant ce qui n'est pas acceptable dans les attitudes des uns et des autres, dans la responsabilité des gens. Et puis il faut mettre aussi en avant ce que les gens font de bien, avec de la bienveillance. On y verra aussi des dispositifs qui sont testés actuellement à Montpellier sur des tests salivaires pour voir si on peut éventuellement, avant l'entraînement, évaluer un joueur pour savoir s'il avait fait une commotion récemment. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Il y a d'autres orientations qui seront évoquées, comme le protège-dents connecté, donc, qui est obligatoire chez les joueurs pour les matchs, mais pro, et la Ligue veut imposer aussi aux aux entraînements des joueurs pros, qu'ils aient les protège-dents pendant les entraînements. Parce qu'il y a les commotions de match qui, elles, sont vues. Et après, il y a les commotions d'entraînement qui ne sont pas toujours vues. Et puis, un joueur, il ne va pas vous dire, je ne vais pas aller voir mon entraîneur pour dire que je pense que j'ai fait une commotion. Parce que si je lui dis, je suis sûr que je ne jouerai pas samedi. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux pas jouer un match ou perdre des capacités cognitives plus tard, comme Sébastien Chabal ou d'autres joueurs, Alexandre Lapendry, voire même mourir. Donc à un moment donné, entre le cerveau et un match, le choix il est vite fait quand même. Donc voilà ce qu'on verra dans ce documentaire, et je trouvais que c'était un sujet auquel il fallait sensibiliser, parce que c'est une problématique. On sait que ça fait peur aussi à des parents. Et alors là, je ne vais pas mettre mon enfant en rugby, parce que quand je vois à la télé... oui, alors le rugby de la télé, c'est pas le rugby des enfants. Il y a eu une grosse évolution là-dessus au niveau des règles chez les petits. Pour les 6-12 ans, il n'y a pas de plaquage. Ça a été supprimé, ça doit faire une dizaine, quinzaine d'années, parce qu'on sait que le cerveau est encore malléable. On parle de la plasticité neuronale. Et comme le cerveau n'est pas formé, ben, il faut le protéger. Alors moi, j'étais cadre technique. Quand je disais en formation, il y a 20 ans, il ne faudrait pas que les enfants ils plaquent au rugby, parce que c'est dangereux. Oh là, qu'est-ce que j'ai entendu ? Ouais, mais t'aimes pas le rugby, c'est pas possible. S'il n'y a plus de plaquage, c'est pas du rugby. Oui, mais protégeons les enfants. Et d'ailleurs, d'autres sports comme le foot ont interdit le jeu de tête chez les enfants parce que ça crée des micro-traumatismes. Voilà. Et il y a des footballeurs qui ont des cerveaux aussi abîmés que des sportifs qui ont fait des sports de combat.
Il y a une idée reçue qui revient parfois quand on tombe sur du rugby et que les gens connaissent pas forcément. Il y a une comparaison qui se fait avec le football américain où ils portent tous des casques. Est-ce que c'est peut-être un des futurs du rugby possible? Alors pas évidemment d'avoir des casques parce que c'est j'imagine assez handicapant d'un point de vue vision, mais d'avoir des espèces de protections sur la tête qui peut-être pourraient couvrir ce genre de risque.
Alors on pourrait imaginer que ce serait intéressant, sauf qu'en fait ça ne l'est pas. Au foot US, ils ont énormément de commotions parce que du coup les joueurs se sentent protégés et ils se surengagent encore plus. Donc avec moins de protection, c'est-à-dire moins de travail technique, donc ça c'est une fausse bonne idée. Et puis après, comme je l'ai dit, on peut très bien se faire une commotion en tombant sur les fesses ou sur l'épaule, donc les vibrations vont se propager, donc le casque va rien éviter du tout. Ce qui permet de protéger le cerveau, c'est le sommeil, l'alimentation. Donc dans l'alimentation, il y a les glucides qui jouent un rôle important, il y a les acides gras qui jouent un rôle important, notamment les oméga 3, il y a la créatine qui peut aussi avoir un effet important au niveau cognitif, et puis il y a le travail technique, être en forme physiquement, parce que on sait que les commotions parfois elles arrivent quand on est un peu fatigué, on maîtrise moins sa technique, on arrive moins à garder sa qualité gestuelle, et du coup ça se dégrade et hop, on a moins de vigilance et là on peut se blesser. Donc les casques non, les protège-dents c'est vraiment essentiel, et travailler la technique et puis la travailler régulièrement je dirais pas tous les jours, mais un petit peu, tout le temps bien fait, faire du travail d'attitude au contact. Donc ça c'est un message, c'est un petit peu, tout le temps bien fait, c'est 15 minutes par semaine, c'est ok, mais c'est 15 minutes mais on le fait.
Vous ne serez pas tout seul ce samedi, vous réunissez des médecins, des anciens joueurs, des journalistes, la FFR, la Fédération Française de Rugby. C'était important ce croisement derrière aussi?
Oui, c'était important de réunir les gens pour montrer qu'on est tous concernés. Et alors je sais que la réalisatrice du reportage par rapport à la Fédé, ben forcément ça dérange un petit peu parce que c'est pas quelque chose qui met en avant le rugby, et c'est pour ça que c'est important justement d'avoir l'idée de dire cerveau protégé, c'est on peut se protéger de ça, on peut agir, il faut pas dire non mais ça n'existe pas, ça serait comme dire bon non il n'y a pas de dopage dans le sport, si il y en a, voilà, et des commotions il y en a, et c'est pas grave si c'est détecté, traité, accompagné, il n'y a aucune inquiétude. Donc oui, il y aura la réalisatrice que je remercie parce qu'elle a été très favorable quand je lui en ai parlé. La Fédération Française de Rugby, il y a notamment Jordan Roux qui est vice-président de la Fédération Française de Rugby et qui est un ancien joueur de Nevers, qui lui a tout de suite, quand je l'ai appelé, il m'a dit oui, super, on y va, il faut que la Fédé soit derrière cette idée. Les intervenants, on parlait d'intervenants, il y a une association qui s'appelle Alerte Commotion, dont le vice-président c'est Mathieu Blin, qui est le président de l'association du Stade Français, ancien international, ancien entraîneur de Top 14, qui est commentateur sur Canal+. et qui sera alors lui présent en visio parce qu'il a le multiplex de Canal ce week-end, mais il sera présent en visio samedi matin. C'est lui qui fera l'ouverture et après on diffusera le reportage des médecins de la Fédé. Il y aura certainement des cadres techniques de la Ligue aussi qui vont venir participer. Je pense à notamment à Wilfried Gauthier qui est un cadre technique qui interviendra sur l'aspect technique, est-ce qu'on peut faire. Madame Bénédicte Lepense qui est une spécialiste de la physiologie et de la nutrition qui donnera des conseils alimentaires sur qu'est-ce qu'on doit manger au quotidien pour la bonne santé de notre cerveau. Donc ça, je dirais, c'est valable pour tout le monde, hein. C'est pas juste parce qu'on a une commotion. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement manger pendant la commotion? Moi, j'étais au rencontre de la performance à Paris, au crêpe de Châtenay-Malabry, et j'ai rencontré un des médecins d'une équipe européenne de foot de très haut niveau, et qui me dit, là, ce qui est important, c'est, après une commotion, il faut apporter du sucre au cerveau, parce qu'il en a besoin pour sa récupération. Donc, là, il m'a dit, tu peux mettre ça en place, insister sur le fait de manger du sucre. Donc, ça, c'est important. Et puis après, il y aura. Alors, il devait y avoir Alexandre Lapendry, mais malheureusement, il a un impératif familial. Il ne pourra pas se rendre présent. Je vais voir avec lui s'il peut éventuellement nous faire une petite vidéo de témoignage. C'est un ancien joueur de l'ASM, ancien international, qui a dû arrêter le rugby et qui maintenant a des séquelles, qui est reconnu comme personne handicapée et qui en plus qui est quelqu'un de parelmonial, donc c'est quelqu'un de notre coin. Voilà les différentes personnes qu'on aura, donc il y aura peut-être d'autres personnes aussi qui seront présentes, mais ça sera des petites surprises.
Une journée qui s'adresse à tout le monde avec donc des surprises. J'aime bien terminer mes émissions avec les infos pratiques. Comment on vient? Est-ce qu'il y a des inscriptions? Ça se passe quand? Où?
Alors ça se passe samedi matin à 10h au stade Pré-Fleury dans l'espace Formapi. C'est gratuit. Voilà, et c'est ouvert aux gens du rugby, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à nos amis de la boxe, à nos amis du judo, du handball, du basket, parce que dans tous ces sports, il y a des commotions, le football aussi. L'athlétisme aussi, parce qu'on peut très bien tomber sur une piste d'athlé, on peut très bien se cogner, et puis on peut glisser sur une marche d'escalier, et ok, c'est un accident de la vie quotidienne, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'on est capable d'agir, de au moins connaître les signes, les symptômes, et la bienveillance de dire ok, je sais que c'est pas grave. Et je sais que voilà, pendant 48 heures, il faut un repos complet. Il faut un repos sportif pendant une semaine, pas de vibration, pour laisser le cerveau tranquille. On peut reprendre avec un petit peu de cardio, mais quel type de travail cardio? Un petit peu de renfort musculaire, mais quel type de renforcement musculaire? Donc, nous, on proposera aussi des protocoles, voilà, adaptés en fonction des. Enfin, il n'y a pas 36 protocoles, mais à respecter avec des étapes. Et au moins que les gens les connaissent, voilà. Quand on dit repos cognitif, repos social, tu vas pas à l'école, non, tu vas pas au travail. Voilà, parce que sinon, ça fait comme d'habitude, on verra, il va y aller lundi matin. Du coup, il a été en cours et puis ça va pas. Donc là, on vient le chercher. Oui, il fallait qu'il reste chez lui dimanche, c'était plus prudent. Donc il y a ces aspects-là. Voilà, c'est de la bienveillance en fait, c'est juste ça.
Voilà, les commotions sont évidemment plus importantes que le contrôle du mat du lundi. Merci beaucoup David.
Merci à vous.
Florence, merci Didier Bonner d'avoir répondu
merci
à
beaucoup.
Mes questions. Du coup, effectivement, je rappelle que la journée cerveau protégé aura lieu le samedi 21 mars. Peut-être on peut retrouver les infos sur vos réseaux, j'imagine.
Oui, sur les réseaux. Alors, c'est pas une journée, c'est juste une matinée. C'est 10h, on accueille les gens. Bien sûr, comme on est rugby, il y aura un café d'accueil. Didier a forcément prévu le fameux pot de l'amitié. Voilà, donc.
Incontournable.
Incontournable, c'est indispensable. En plus, on aura du sucre, donc ça sera très bon pour le cerveau. Et donc, on devrait finir vers midi et demi, voilà, midi et demi, une heure. Et après, on mettra tout à disposition pour les personnes qui le veulent, les documents, les protocoles. Il y a beaucoup de parents qui ont répondu, j'ai fait un petit questionnaire, et j'ai demandé un petit peu ce qu'ils voulaient apprendre. Et en fait, c'était, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les signes, et puis qui on contacte, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors que c'est pourtant connu, c'est dans les documents de la Fédé, les éducateurs sont au courant. On le présente aux joueurs, mais on voit qu'on a encore besoin de le dire, de le répéter. Donc c'est ce qu'on va faire, le dire, le répéter avec bienveillance et rassurer. Voilà, une commotion, il n'y a rien de dangereux dans une commotion. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas la considérer.
Merci encore à tous les deux. CDLP, c'est fini pour aujourd'hui. L'après-midi continue sur BAC FM 106.1 avec le retour de la musique rock et metal. C'est parti.